Rayon libre.
Visiblement, il semblerait que vous n'appréciez pas la bicyclette, mes amis, hein? Vous estimez sans doute que le monde n'a pas besoin de pratiquer le vélo, hein? Que le monde n'a pas besoin d'un peu de cyclisme ni de savoir-vivre, hein?
Rayon libre sur Cause Commune.
L'idée, c'est que toutes les personnes qui peuvent faire du vélo le fassent. Et il y a encore de la marge, hein?
Je pense que le vélo, c'est tellement un outil qui rend libre.
Rayon libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, que tu pédales ou pas, sois le bienvenu, tu pédaleras peut-être bientôt un jour. Il est 14h, c'est Rayon libre, nous sommes le lundi 3 mars 2025. Et aujourd'hui, nous sommes en direct, cette semaine, le vélo et la boîte. Mais d'abord, les merci à Belle, merci qui rentre de plein pied dans sa 79e année. Une preuve, s'il en fallait encore, que le vélo, ça conserve. Abel n'a jamais été aussi jeune. Merci à l'association Libre à Toi qui héberge, accueille et plus encore cette émission et qui nous donne les moyens de vous causer, vous donne les moyens de vous cultiver autour du vélo. Enfin, j'espère que Rayon Libre vous cultive. Merci à vous, auditeurs, auditrices, qui nous écoutez, qui partagez, qui commentez. Un merci tout spécial à Patrick Vandenbosch, créateur de Bike Café, qui semble être mon meilleur ambassadeur. Patrick, cœur sur toi. Enfin, merci à vous qui venez au micro vous raconter, nous raconter votre vélo à vous et cette semaine, et vous, à vous, votre semaine. Comment elle s'est passée de votre côté? Peut-être que vous avez pris le temps d'aller au cinéma, regarder, écouter, vous émouvoir de Mathias et Philippe qui pédalent sur les traces de Yuri de La Rochelle à Istanbul. Arriveront-ils à Istanbul? C'est ce film à bicyclette. Peut-être avez-vous pris le temps d'aller voir ce film, l'histoire de Souleymane, reparti de la cérémonie des Césars 2025 avec 4 récompenses. Le César de la révélation masculine pour Abou Sangaré, le César de la meilleure actrice dans un second rôle, le César du meilleur scénario original et le César du meilleur montage. Ces deux films, ils ont plein de choses en commun, des parcours de vie cabossés. Quand l'un révise son texte et son histoire sur un vélo, les deux autres revivent un voyage, un pèlerinage sur des vélos. Ces deux films sont à la frontière entre le cinéma et le documentaire. Ces deux films proposent le vélo comme un élément du décor, comme un élément de décor, comme un prétexte. Imaginez deux minutes l'histoire de ces deux films racontés depuis une voiture, un train, un scooter. Ils n'auraient probablement pas la même saveur. L'un est auré au lait d'Oscar, l'autre rafle tous les prix du public dans les festivals dans lesquels il est présenté. Ce que ces films ont en commun, présenter la vraie vie avec le vélo comme une solution, comme un exhausteur d'émotions. Y a pas à chier, parfois le vélo c'est beau. Et si le vélo était encore plus beau quand il arrivait par accident, comme un accessoire, mais un accessoire indispensable. À propos d'accessoires indispensables, peut-être entrons-nous dans une nouvelle ère. Fini l'ère du sac à dos, de la sacoche. La question récurrente est pas si passionnante. Et toi, tu es team sacoche ou team sac à dos? Ni l'un ni l'autre, mon pauvre. Je suis de la team boîte. Je ne jure que par la boîte. C'est peut-être la vision de mon invité du jour, Bruno Louis. Un artiste, un créatif. Ne lui prêtez pas un appareil photo, il vous dégoûtera d'en prendre. Bruno Louis, après un passage chez 12, vous savez, ses vélos cargo dijonnais, a pris la poudre d'escampette pour créer son entreprise Cargo Bike Factory, qui s'appelle maintenant Flybox. Et sa conviction à Bruno Louis, eh ben, un vélo cargo, c'est comme une voiture en mieux, sauf qu'il manque un truc au vélo cargo par rapport à la voiture, c'est un coffre. Un endroit où tu peux y jeter ton sac, tes petites affaires, ton matériel, ta photo, tes poussettes, ton landau et rouler, rouler, rouler. Aujourd'hui avec Bruno Louis, on va discuter boîte, une sorte de réunion Tupperware, mais en mieux, restez avec nous parce qu'on va discuter de tout ça. Bonjour Bruno.
Bonjour Jérôme.
Merci d'être en studio avec nous aujourd'hui. Alors vous Bruno, vous êtes plutôt de la team sac à dos ou sacoche?
Pas du tout, c'est sac à dos, on transpire, sacoche, ça déséquilibre le vélo, donc je suis plutôt Tupperware, à moi.
Tupperware. Et avant, justement, avant de parler de petites boîtes dans les grosses, vous, le cargo, vous êtes un peu comme Obélix, vous êtes tombé dedans petit, non?
Oui, tout à fait. Ça fait un petit bout de temps maintenant que je suis tombé dedans avec premier amour avec, pour ceux qui connaissent, le fameux Bullitt, qui a été un de mes premiers vélos cargo. Et puis après, j'ai rejoint Thomas Coulbeau pour cette super aventure pendant presque 9 ans à développer 12 cycles.
Thomas Coulbeau qui est toujours à la tête de cette entreprise dijonnaise.
Tout à fait. Ouais, j'ai encore pas mal d'amis qui sont là-bas puisqu'en fait, on était une bande de rigolos au tout début et puis ça a été super sympa. Donc ils sont toujours là-bas, donc effectivement tout ce qui est biporteur, je connais un petit peu le sujet, ouais, tout à fait.
Et alors c'est marrant quand même aussi quand on regarde votre profil sur LinkedIn, avant 12 cycles en 2013, il n'y a rien, il n'y a que dalle, comme si votre passé était effacé, bizarre. C'était des photos, vous faisiez que de la photo à l'époque?
Je faisais que de la photo et avec une dominante de photos culinaires en plus, donc ouais, voilà, c'était
peur.
Vraiment en un seul mot, hein, culinaire, oui. En un seul mot, c'est parce qu'en fait, LinkedIn n'existait pas vraiment. Et du coup, j'ai commencé mon profil à partir du moment où j'ai créé Cargo Bike Factory. Et puis voilà quoi.
Et Cargo Bike Factory est devenu Flybox. Comment vous définiriez votre activité chez Flybox?
Chez Fleebox, concepteur de caisse, mais avec un axe un petit peu en gardant toujours le côté pratique et léger qui devrait être l'essence même pour tout ce qui se fait sur un vélo. Donc ne pas succomber aux sirènes des SUV et compagnie, et donc de faire des caisses qui soient pragmatiques, légères, et si possible on a fait des choix de matériaux qui sont recyclables, donc d'être un petit peu dans ce mouvement-là.
Alors avant de venir en deuxième partie de l'émission sur la partie comment vous faites vos boîtes, comment elle vous vient cette conviction de il faut qu'on pose des boîtes, c'est en regardant quoi, les scooters et les motos avec leur top case?
Oui, en fait, ce qui était super intéressant avec les boîtes, c'est qu'on pouvait être transmarque, je dirais, c'est-à-dire que c'était pas faire un produit spécifique pour le 12, ou spécifique pour le Bullitt, l'Urban Arrow. Ça me permettait un petit peu de surfer sur un élément qui était un petit peu négligé au début, qui était vraiment le contenant qu'on pose sur le vélo. La partie roulante était maîtrisée par plein de personnes, mais je trouve que sur la partie contenant, enfin les fameuses caisses, il y avait un petit besoin de trucs. Un petit peu différent, quoi. Voilà.
Au fait, vous êtes en train de nous dire qu'il y a une plateforme qui s'appelle le vélo cargo. Peu importe. D'ailleurs, on peut faire, vos boîtes, elles se posent sur des biporteurs et aussi sur des longtails et des triporteurs, ou c'est que du biporteur ou que spécifique, où vous travaillez sur tout type de vélo cargo?
Non, tout type de vélo. C'est ça qui est vraiment génial. Même, il commence à y avoir une petite lame de fond qui va arriver avec les remorques. Donc, du coup, on pourrait même faire des caisses qui vont sur les remorques. Donc, on fait vraiment tout, et le concept de ces caisses, c'est d'utiliser le moins de matériaux possible. Donc en fait, on a 3-4 éléments qui vont des plaques en polypropylène avec des tubes en aluminium.
Polypropylène, c'est quoi? C'est une sorte de plastique?
C'est une sorte de plastique avec, enfin c'est même pas une sorte, c'est un plastique qui a la particularité d'être recyclable à quasiment 100%.
Et donc, à l'infini, c'est-à-dire que quand ma boîte, pour une raison que tu elle est cassée, on vous la renvoie et vous la recyclez.
Alors en fait, il suffit de la mettre dans du recyclage, le bac jaune, et c'est un plastique qui est vraiment identifié, qui a des particularités spécifiques, qui est un plastique aussi qui est énormément utilisé dans le côté cuisine. Il y a des morceaux de polypropylène, c'est un plastique alimentaire presque. Donc voilà. Et donc il est bien identifié dans les trucs de recyclage. Ils en refont des paillettes. C'est hyper simple comme processus. Ça demande pas une énergie folle pour séparer des morceaux d'autres. Et hop, une fois qu'ils ont fait des paillettes, ils réinjectent ça dans des plaques de polypropylène. Ce qui était intéressant dans les plaques aussi, c'est qu'il en existe des pleines, des alvéolaires. Enfin, il y a vraiment dans le tissu industriel, c'est un matériel qui est utilisé pour sous plein de formes différentes, quoi. Voilà.
Mais alors vous, aujourd'hui, votre métier, c'est quoi? C'est de concevoir ces boîtes et de les faire sur mesure par type de vélo. Là, tout à l'heure, vous citiez la marque 12 ou la marque Urban Arrow ou autre. Donc, vous avez quoi? Vous avez un modèle par type de vélo et ensuite vous posez dessus. Comment ça fonctionne?
En fait, on a décliné un petit peu à l'instar des camionnettes. Donc, quand on achète une camionnette, on peut l'acheter plus ou moins longue et plus ou moins haute. L1, oui. L2, H1, H2. Donc, voilà. Et ben pour les boîtes, on a fait pareil. Donc, on part d'un châssis, un 12, un Urban Arrow. Alors là, on parle des biporteurs charge à l'avant. On a notre cahier des charges, c'est la contrainte du châssis du vélo. Et après, on essaye de standardiser des caisses qui vont dessus. Donc, typiquement, dans notre catalogue, on va se retrouver avec un avant... avec une caisse pour un avant 12-600, puisqu'en fait, ils ont des cadres avant 600
mm. 600, c'est la longueur de la plateforme.
Voilà, de la plateforme, 600 mm ou 800 mm, avec une caisse qui sera disponible en largeur 1, donc 510 mm à l'intérieur, largeur 2, 630 mm, et je viendrai pourquoi 630 mm, et H1, H2, donc ça va un peu... La hauteur va dépendre d'où arrive le guidon, la hauteur de la colonne de direction, et on décline toutes nos caisses pour les biporteurs un petit peu de cette manière. Alors on n'a pas tous les biporteurs encore au catalogue, mais à terme on pourrait décliner ça pour même des vélos qui pour les futurs vélos, il suffit d'avoir le châssis et puis de coller une caisse dessus. Et pareil pour les long tails. Maintenant, on commence à faire des caisses avec une particularité, c'est que là, elles viennent. Alors, les longtails, on travaille surtout avec ceux qui ont les barres de protection pour les enfants, parce que là, on est plus dans le côté je clippe ma caisse quand j'en ai besoin et je l'enlève quand je dois transporter les enfants. Donc, on est un peu moins dans l'usage fixe et permanent.
Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vos clients, c'est qui? C'est de la cyclo-logistique ou du particulier, ou les deux?
On a commencé par pas mal de cyclo-logistique, puisqu'en fait, les biporteurs, il y a eu quelques parents qui étaient dessus. Nous, pour l'instant, on n'a pas de caisse avec des fauteuils à cause des normes, des homologations et tout ça. Donc ça, et puis les fabricants de vélos ont souvent une solution. Donc ça sert à rien de dupliquer les solutions. Donc pour les biporteurs, on était vraiment en cyclo-logistique. Et maintenant, avec l'arrivée des longtails, clairement, on est sur un marché de particulier, même si on commence à voir des professionnels qui ont une utilisation combinée d'un long tail avec une caisse à l'arrière qui leur offre déjà une capacité de charge qui est pas inintéressante, et ils doublonnent avec une remorque. Donc ouais, on a vraiment une solution de modularité. Quand à l'instant T on a besoin d'une capacité un petit peu plus conséquente, on met une remorque sur laquelle on développe des caisses, et puis sinon on a la caisse sur le porte-bagages arrière.
Quel est l'intérêt de votre caisse en polypropylène par rapport à une caisse en alu, par exemple? On en voit des caisses en alu aujourd'hui sur des vélos cargo, des biporteurs notamment. Quel est l'intérêt de votre caisse à vous?
Le premier critère, ça va être le poids. On a vraiment voulu faire une caisse qui a une bonne capacité de chargement
En termes de volume,
voilà. En termes de litrage, on est comme les caisses en aluminium. Par contre, en termes de poids, on va être presque 20, voire sur certaines caisses, 50% plus léger. Donc, comme sur les vélos, on a tous un point commun, c'est qu'on a la même motorisation. À un moment donné, si la caisse elle est déjà lourde, bah c'est une capacité d'emport qui va diminuer. Ça, c'était un des premiers critères pourquoi on est parti sur ça.
Et même si on a aujourd'hui le vélo assistance électrique, plus le vélo est lourd et plus on va tirer sur la batterie, et donc on aura moins d'autonomie.
Complètement. C'est ça. Et puis l'agilité ou ce genre de choses, ça c'était vraiment garder un vélo qui reste versatile et léger. Ouais. Ça c'est un des critères. Donc quand on met la caisse, le seul truc qu'on va sentir la différence, c'est même pas le poids, ça va être la résistance au vent, parce que physiquement elle a un certain volume, hein, c'est comme ça. Mais le poids ne va pas changer le comportement du vélo. Et le deuxième critère, c'était de choisir des matériaux qui soient recyclables et faciles à expédier. Parce qu'on a une des vraies particularités, c'est qu'une caisse aluminium, elle est déjà dans son volume terminal, elle est montée en usine. Donc le coût d'expédition entre l'endroit où elle est fabriquée et là où on va l'utiliser est assez onéreux.
Il n'y a rien de plus cher que de transporter de l'air. Hein.
Voilà, ouais. C'est exactement ça. Et donc nous, en fait, elle arrive à plat, la caisse, et il faut la monter soi-même. Mais c'est d'une simplicité enfantine, hein. Je dis toujours, si vous savez monter une boîte de Lego de 12 ans, vous saurez monter la caisse. Et du coup, il suffit d'une petite heure, vous montez la caisse. L'avantage aussi, c'est que chaque partie de la caisse est remplaçable assez facilement.
Donc c'est les panneaux.
Donc oui. Elle est constituée de deux panneaux de côté, deux devant et un capot et un fond. Et chaque panneau peut être revendu séparément. Donc du coup, ça veut dire que si par malheur il y avait eu un accident, il y a juste à changer les quelques riselants, des panneaux, et puis c'est reparti. Contrairement à une caisse aluminium, une fois qu'elle a eu un choc, elle peut être un peu de guingois, le couvercle qui se met pas très bien, voilà. Autre particularité, parce qu'on a essayé d'en mettre plusieurs, c'est que le capot de supérieur est amovible assez facilement. Oui. C'est tenu en force grâce à des élastiques, notamment. Et du coup, ça permet de transporter une caisse qui se ferme, même avec un cadenas. On peut mettre un petit cadenas pour éviter le vol par opportunisme. Hein. On pourra peut-être.
Oui, parce que on en parlera aussi après de ça, parce que là, on peut penser que la caisse en aluminium, elle est plus difficile à fracturer que votre caisse en polypropylène. Un coup de point dedans et elle est cassée, la caisse en polypropylène, ou pas du tout?
Non, pas du tout. C'est vraiment là, on est plutôt sur la logique du roseau par rapport aux chaînes. Donc elle va pouvoir prendre des chocs, elle va pouvoir se déformer, parce que en fait elle encaisse le choc et elle se remet en place. Ouais. Et à découper, on pense qu'on va pouvoir la découper avec un cutter, mais c'est bien chiant à faire. Ouais. Par contre, effectivement, c'est pas Fort Knox non plus, c'est pas une, mais de la même manière qu'une caisse en aluminium, si on tombe sur quelqu'un qui est très motivé pour voler, il arrivera à l'ouvrir de toute manière. Par contre,
sur la serrure notamment.
Oui, sur la serrure, le point de faiblesse de la caisse alu, ça va être la serrure. Ouais. Nous, on a vraiment un système qui permet de la fermer pour éviter le vol par opportunisme. Quelqu'un qui passait à côté, parce qu'il y a des solutions sur les vélos cargo, ouais, qui sont des poches, des sacs en tissu ou ce genre de choses. Donc ça, c'était trop léger. Par contre, alors que avec notre solution de caisse en polypropylène, les les Fleebox, ça nous permet vraiment de sécuriser à minima ce qu'il y a à l'intérieur.
Alors, je vous ai coupé la parole, notamment sur la partie couverture, fermeture, ouverture, mais on en parlera après la pause musicale, parce qu'il est déjà 14h14, mon cher Bono. Donc, vous nous parlerez de ça après, et puis après, on va aussi justement voir est-ce que vos clients ne seraient pas potentiellement les fabricants de vélos cargo qui vous passeraient des commandes ou pas, puis peut-être on parlera aussi un peu de distribution. En tout cas, il est 14h14, bientôt 15, c'est le moment de vous proposer une pause musicale, un petit morceau de 7 minutes, c'est parfait, 7 minutes, un format radio. Non, promis, désolé, je vous propose qu'un aperçu, on se retrouve dans 3 minutes, vous êtes toujours sur Rayon Libre, c'est une réunion Tupperware appliquée au vélo cargo avec Bruno Louis, fondateur de Fleebox, de la boîte sur mesure pour votre vélo cargo. Vous êtes sur la radio Cause Commune, nous sommes toujours le lundi 3 mars 2025 et on s'écoute ça et on se retrouve, promis, avant 5 minutes.
Cause Commune, la voix des communs.
Le standard, oui, j'ai oublié de vous le dire. Le titre de ce morceau, c'est Blind par Hercule et Love Affair. Et s'il y en a un qui est pas blind, c'est bien Bruno Louis, un visionnaire, mon invité aujourd'hui, qui est à la tête de Fleebox, qui propose des box qu'on pose sur nos vélos. Votre box, juste avant de couper, elle se ferme par un capot et vous disiez, il est amovible ce capot, hein, c'est ça?
Oui, tout à fait. En fait, l'idée, c'était justement de pouvoir s'adapter. Ça, je pense que c'est aussi un des maîtres mots par rapport au vélo cargo, c'est de pouvoir s'adapter aux besoins à un instant T. Donc, effectivement, sur une caisse où le capot est solidaire, c'est ennuyeux si ça dépasse. Mmh. J'ai toujours l'exemple
pour transporter son yucca.
Bah voilà, c'est exactement ça. Les plantes vertes ou des trucs qui vont dépasser à un moment donné.
On peut transporter son pote aussi.
Tout à fait. En fait, oui. Et effectivement, quand on doit transporter quelque chose qui ne nécessite pas le capot, c'est assez simple sans outil de pouvoir l'enlever et le caler sur le côté de la boîte et arriver à destination. Il suffit de le remettre et puis c'est reparti comme avant.
Mais alors justement, les usages aujourd'hui qu'on a, il y a donc du transport d'animaux, j'imagine. Les transports d'enfants, c'est plus compliqué parce qu'il y a des problèmes de normes.
Ouais.
C'est quoi les usages? J'ai vu sur votre site Instagram, sur votre site, vous faites des barbecues aussi, par exemple.
Ouais, alors ça a été un délire plutôt, le délire de l'artiste avec mon beau-frère.
Ouais.
Effectivement, on avait décliné une des caisses pour faire un barbecue, mais ça, c'est très très compliqué à industrialiser. Et c'était vraiment un instant T. Ouais. Non, l'usage, ça va de
transporter
de...
le charbon, déjà, c'est pas mal.
Non, mais c'est transporter son quotidien quand on n'aime pas avoir ça sur un sac à dos et sur et dans des sacoches.
Je prends par exemple. Faut reconnaître. D'ailleurs, il faut. Enfin, je me permets de vous couper, Bruno. C'est en essayant un de vos vélos que vous m'avez prêté, un Bullitt, où justement il y avait votre box dessus, où je me suis rendu compte, mais c'est tellement confortable. On balance dedans son antivol, son sac, peu importe qu'il soit lourd, pas lourd, et on pédale sans se poser la question de, est-ce que mon truc il est bien arrimé, etc. C'est une liberté incroyable.
C'est complètement ça. C'est vraiment, je trouve, le côté pratico-pratique qui prédomine. Et effectivement, après, par rapport au transport d'enfants, où il y a des normes, tout le reste, en fait, on peut tout faire, quoi. De l'instrument de musique, le sac de sport, on se prend pas la tête. C'est vraiment le gros avantage, et je pense que le marché du vélo cargo pourrait exploser dans ce sens-là, parce qu'il y a vraiment des choses, ça change le quotidien. Honnêtement, je trouve que de pouvoir aller faire ses courses et pas se contenter de prendre 3 produits, parce qu'on sait que les sacoches, ça va vite être à saturation, sur le dos, c'est pas agréable. L'été, le sac à dos, on transpire tous, enfin voilà.
Enfin, surtout vous, moi, ça va.
Ouais. On en reparlera. c'est vraiment le côté pratique, quoi. Et après, ce qui est vraiment qui a validé aussi, c'est l'usage que pouvaient en faire des personnes autour de nous et notamment aussi le public féminin, où quand elles ont tout un tas de choses à emporter, les vêtements de pluie, par exemple, vous posez pas la question. Vous avez toujours les vêtements de pluie avec vous.
On pourra arguer que on peut le mettre dans la sacoche qui est à demeure sur le vélo.
Oui, tout à fait. Mais si on commence à mettre tous les vêtements de pluie, ça y est, la sacoche, elle est pleine. On est d'accord, entre le poncho, le pantalon et ce genre de choses, c'est vite plein.
Et il n'y a pas que les femmes, hein, d'ailleurs, qui sont mouillées quand il pleut.
Normalement, là-dessus, il y a une vraie égalité. Mais du coup, par exemple, on parle sécurité.
Ouais.
Sur les vélos cargo, on peut emporter des vrais antivols de compétition qui vont dépasser le kilo. Alors, c'est un peu antinomique par rapport à la recherche de peu de poids, mais pour les boîtes, mais on se pose pas la question. On met tout à l'intérieur. Si dans le quotidien on doit faire un stop pour aller chercher 3 packs d'eau, y a pas de problème. Et vraiment le vélo cargo et le long tail aussi permet ça grâce à nos boîtes.
Donc vous proposez une nouvelle vision du transport à vélo.
Je sais pas si c'est une nouvelle vision, mais que on se limite pas au transport de sa petite personne avec un vélo classique. Oui. Là, je trouve que le vélo cargo et comme vous l'avez évoqué avec le vélo qu'on vous a passé, permet de vraiment de prendre conscience qu'au quotidien d'avoir un coffre, il nous viendrait peu à l'idée d'avoir une voiture sans coffre ou de boîte à gants parce que voilà la voiture ça nous permet à un moment donné de transporter tout et n'importe quoi.
Au fait, c'est ce que j'ai trouvé, moi j'ai eu une sorte de révélation, c'est tout d'un coup c'est de passer de qu'est-ce que je transporte sur mon vélo à qu'est-ce que je transporte dans mon vélo et cette notion géographique entre le sur et dans est incroyable. En fait, au moment où je l'essaye, je me suis pas rendu compte de ce changement là.
Complètement. C'est vraiment et souvent les personnes qui vont prendre un vélo cargo, ils ont un premier usage et à force de l'utiliser, on se dit putain, pourquoi j'avais pas ça avant, quoi. C'est comment j'ai pu faire avant, quoi.
Aujourd'hui, les fabricants de vélos cargo, ils travaillent beaucoup sur l'accessoirisation, donc sur concevoir des sacoches sur mesure, concevoir des canopies sur mesure, enfin bref, tout ce qui fait que un vélo cargo est finalement très versatile. Vous travaillez, vous, en direct avec des marques pour proposer une solution de, on va dire, top case ou de boîte, peu importe comment on l'appelle, proposée par Fleebox?
Non, pour l'instant, nous, on travaille, c'est pas qu'on garde notre liberté, mais en fait, on a des produits qu'on essaye de standardiser, et il y a quand même un petit peu de de standardisation sur les longueurs ou les largeurs des vélos cargo. Donc pour l'instant, on est vraiment à développer un catalogue transmarque. Ouais. Et même si on n'a pas certaines marques un peu plus exotiques de vélos cargo, on l'a pas. C'est pas hyper compliqué d'essayer d'en adapter une. De toute manière, on reste des artisans. Hein. Ouais. On n'a pas des stocks. Tout est fait en France. On a un sourcing de pièces qui viennent de France ou aller au maximum d'Italie pour le plastique. Donc on peut s'adapter un petit peu sur certains vélos et même s'il y avait des demandes spécifiques pour un artisan qui a un besoin, on pourrait réfléchir à des solutions quoi.
Combien ça coûte d'avoir sa boîte sur son vélo?
Les boîtes, on va commencer aux alentours de 90€ pour une boîte pour un long tail.
Ouais.
Et après sur les grosses unités où il y a des doubles capots, enfin des choses un peu plus compliquées, on va être aux alentours de 700-800€. Et après il y a des options comme le flocage, c'est-à-dire mettre de la déco ou ce genre de choses. Donc ça peut être super sympa aussi de
pour en faire un objet publicitaire. Mais ça sera la question, ouais. La question finale après la chronique d'Abel Guggenheim. Est-ce que on peut personnaliser cette box pour qu'elle soit aux couleurs de, je sais pas, Radio Cause Commune par exemple?
Avec grand plaisir.
Vous répondrez après la chronique d'Abel Guggenheim. Chers auditeurs, chers auditrices, il est 14h25. On va s'écouter la chronique d'Abel Guggenheim. Abel, comme d'habitude, il a une longueur d'avance, une proposition sur la classification des véhicules intermédiaires. À mon avis, elle sera entendue dans une vingtaine d'années, mais en attendant, on l'écoute tout de suite, notre cher Abel. C'est à toi.
Bonjour. On parle beaucoup depuis quelques années de véhicules intermédiaires. Un numéro de la revue Transports Urbains y était entièrement consacré en 2022 et toujours prompt à rendre compte de l'actualité du vélo et des sujets proches, Jérôme invitait en octobre 2022 Aurélien Bigot, un des auteurs de cet abondant dossier, à venir vous en parler dans le numéro 179 de Rayon Libre. Vous aurez accès à cette passionnante émission si vous écoutez celle-ci en podcast, soit en cliquant sur le lien que nous aurons indiqué, soit si vous êtes adepte du do-it-yourself, en remplaçant 286 par 179 à la fin du lien de la présente émission. Aurélien Bigot définit ses véhicules intermédiaires comme tout ce qui existe entre le vélo classique et la voiture, et il en détaille quelques-uns en réponse aux questions de Jérôme. Les speed pédélec, les vélos couchés carénés, les vélos voitures, mini-voitures, voiturettes. Jérôme et Aurélien abordent en détail l'aspect qualitatif du problème et essayent en particulier de déterminer et distinguer les effets positifs et les effets pervers de ce développement. La question que j'essaye d'aborder aujourd'hui est son aspect quantitatif. Quelle est la part respective de chacun de ces véhicules? Et en particulier, quelle part y ont les vélos assistance électrique, VAE, qui figurent donc dans cette nouvelle catégorie, mais que, vous le savez certainement, on a pris l'habitude de classer aussi à l'intérieur de la catégorie dénommée vélo. Si vous m'écoutez un peu régulièrement, il n'aura pas pu vous échapper que cette confusion sémantique ne reçoit pas mon assentiment, et même pour parler clair m'agace sérieusement, mais je ne peux faire autrement que de constater qu'elle s'est aujourd'hui généralisée. On parle souvent, pour qualifier le développement du vélo, d'explosion, de développement exponentiel, mais ne le fait-on pas justement parce qu'on mélange des catégories différentes? Quelle est la part des VAE, mais aussi de certains objets roulants, que l'on leur assimile réglementairement, mais aussi souvent visuellement parce qu'on ne peut pas les distinguer dans ce développement? Ne devrait-on pas plutôt considérer que le VAE est sous ces véhicules, gyro-roues, skateboard motorisé, trottinette électrique, etc., sont de nouveaux véhicules destiné à figurer aujourd'hui dans cette nouvelle catégorie des véhicules intermédiaires, dont il est d'ailleurs possible qu'ils constituent la part la plus importante. On s'apercevrait alors que les courbes qualifiées d'exponentielles sont peut-être des courbes simplement ascendantes, parfois plates, et même éventuellement légèrement décroissante. Si les vélos et les VAE sont effectivement distingués au niveau des ventes, ils ne sont pas du tout au niveau par exemple du comptage de véhicules, et ils ne sont pas non plus pour le recensement. J'avais au début des années 2010 représenté la Fédération des usagers de la bicyclette dans une série de réunions du Conseil national de l'information statistique pour obtenir que, lors du recensement, on distingue les vélos et les deux roues motorisées à leur regroupement. Ne conviendrait-il pas aujourd'hui de créer statistiquement cette catégorie des véhicules intermédiaires, dont les VAE et véhicules assimilés, et de les enlever de la catégorie des vélos? À lundi prochain.
Merci, c'était Abel Guggenheim. Une dernière question pour vous, Bruno Louis, ma Fleebox, donc aux couleurs de Cause Commune sur mon vélo exotique, elle est prête en combien de temps?
Elle est prête. Si c'est un modèle qui est standard, on en a déjà quelques-unes en stock, donc ça peut aller très très vite.
Vélo exotique, hein.
Vélo exotique ?
J'ai dit vélo exotique. Mon vélo cargo, il sera exotique. Il n'est pas référencé chez vous.
Sous une dizaine ou une quinzaine de jours, voilà, ça dépend de la taille. Mais ça peut être assez rapide à développer. On a tous les outils en interne, tout est fait en France, donc ça va super vite. Et n'hésitez pas à consulter.
Le temps que je trouve mon vélo cargo, quoi.
Ouais, voilà.
Merci beaucoup, Bruno.
Avec grand plaisir.
Auditeur, auditrice, ce rayon libre, il est dans la boîte ?
Il est dans la boîte.
Vous pouvez enfourcher votre vélo. Avec Filbox, on ne dit plus qu'est-ce que tu transportes sur ton vélo, mais qu'est-ce que tu transportes dans ton vélo. Et filez pédaler, parce que je vous le rappelle, une journée sans pédaler, c'est vraiment une journée gâchée. Je vous dis à la semaine prochaine. Restez sur 93.fm, Cause Commune. Il doit être bientôt 14h30, 14h29 exactement. Merci de votre fidélité, et merci pour vos messages et vos commentaires, et à la semaine prochaine. We'll be right back.